RMC.
Rebound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, le rendez-vous basket d'RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On est en plein play-off et nous allons parler des finales NBA avec Stephen Brun, Arnaud Valadon et Frédéric Weiss. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour.
Salut Pierre,
salut, salut à tous.
Ça regarde un peu les matchs la nuit en ce moment ? Non, ça ouais, commente plus, pour
plus
Fred.
Plus le matin. Plus le matin quand même.
Ouais, en replay. Est-ce que tu arrives à faire en sorte de ne pas connaître les résultats?
Moi, ça ne te dérange pas.
Ça te dérange pas?
Ah non, moi, il ne faut pas que je connaisse.
Les séries, le cinéma, non, tu peux me dire que le mec il meurt à la fin, c'est pas grave, si le film est bon, je vais regarder quand même.
C'est pas tout à fait pareil que le sport, c'est quand même le dénouement le plus important.
Non, c'est vrai, le dénouement c'est important, évidemment, mais c'est pas le plus important, j'aime bien le jeu quand même, donc non, ça ne me dérange pas.
D'accord, d'accord.
Moi, je peux pas. Je suis obligé de ne pas savoir.
Ouais, c'est vrai que sinon, t'as tendance à accélérer, quoi. Arriver vite sur la fin, non?
Ouais, oui, t'as envie, mais...
ou un petit ouais, résumé. Bon, en tout cas, on connaît presque la finale NBA cette année. Je dis presque, parce que à l'heure où nous enregistrons, Denver est qualifié. Denver a sweepé les Lakers, tandis que Miami mène 3-0 face à Boston. C'est donc un spécial Denver Nuggets, parce que c'est assez rare pour le faire. Denver est finalement la meilleure équipe de la saison. C'est pas Milwaukee qui est sorti au premier tour des playoffs. Denver est dominant dans ses playoffs 2023, d'où la première question, sont-ils injouables après avoir sweepé les Lakers? La deuxième question concerne Nikola Jokic et Carmelo Anthony, parce que deux actualités se percutent, les Nuggets en finale et la retraite de Carmelo. Jokic a-t-il déjà fait mieux que Carmelo? Ça sera notre deuxième débat. Et enfin, vous allez me dire dans la partie historique, quels sont pour vous les matchs les plus marquants de la grande carrière de Carmelo Anthony. Quant au quiz, eh bien, il alternera entre des questions sur les Nuggets et des questions sur Carmelo. Voilà, ce sera comme
c'est
ça.
C'est parfait, c'est recherché.
C'est bien,
ça.
Non
ouais, on aime ça.
C'est un peu c'est original. Un quiz spécial Denver Nuggets.
Il n'y a pas de boucle.
Très bien.
Pas de moi, j'ai
pas entendu la blague de Arnaud.
J'ai entendu, je voulais surtout pas la relever.
C'est un Méli-Mélo.
Allez, c'est parti, Basket Time, tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.
Murray looking, stumbles a bit. Davis on him. Murray on the drive, stumbles again. Lost the ball, knocked out of bounds. Laker ball. On the inbound, Jokic drives and puts it up and in. Nuggets up by two. 30 for Jokic. Looking, finds James. Takes a pass, falling away, baseline shot. Side of the backboard. Reeves holding, James comes out of the pack. James on the drive, goes inside, stop, shot clock, gets it back, it's over, it's over. Denver makes history, the Nuggets are going to the NBA Finals for the first time in franchise history. What a crushing finish for the Lakers as the Denver Nuggets sit atop the West. Here in 2023, they're the new kings of the West.
Alors, les Nuggets sweep les Lakers en finale de conférence, c'est déjà en soi assez hallucinant. Et on va se projeter sur la suite, hein. Les Nuggets sont-ils injouables? Parce que franchement, là, dans ces playoffs, personne n'a résisté. Hein. Bon, Minnesota, ça a été une formalité. Les Suns, qui étaient quand même une équipe qui avait de quoi faire peur sur le papier, bon, bah, c'est pareil, hein. Il n'y a plus trop de suspense. Et maintenant, un sweep en finale de conférence. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Et d'abord, est-ce que vous êtes étonné de cette finale, Fred? Est-ce que tu attendais à ce qu'il y ait plus de résistance de la part des Lakers?
Alors, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait un sweep. Les Lakers, LeBron, tout ça, ça voulait forcément ne pas être sweepé. Et donc, de ce sens-là, oui, je suis très étonné. On en avait parlé, on pensait tous que c'était un peu les favoris quand même, Denver, parce que leur saison régulière avait été fantastique, qu'on a un vrai groupe qui s'est créé, que Jamal Murray est en train de reprendre un petit peu des forces, et ça, c'est hyper important aussi pour cette équipe. Et quand on a Nikola Jokic à ce niveau incroyable, ce mec a fait un pacte avec le diable, c'est pas possible. Il me prend des shoots que je n'ai jamais vus. Je me rappelle du shoot où, quand ils sont à 107, 104, le mec prend un shoot step back à 2-3 points, parce qu'il mord un petit peu, mais sur la tête d'Anthony Davis, tu peux pas marquer ce shoot là. Mm-hmm. C'est impossible. Les mecs sont dans une réussite folle, ils ont une confiance folle, parce qu'ils ont mené de 15 à la mi-temps quand même. Et malgré ça, ils reviennent, on sent une sérénité dans cette équipe, on sent que Mike Malone tient ses joueurs, on sent que les joueurs sont concernés, et on sent surtout qu'ils n'ont peur de rien.
Steve, étonné oui. Par cette finale?
Le 4-0 est étonnant, oui, je pensais qu'à un moment donné, les Lakers, surtout bien à domicile, auraient été capables d'avoir une soirée comme ils en ont eu d'ailleurs dans cette campagne de play-off avec une doublette LeBron James et Anthony Davis au top, mais il y avait besoin d'autres choses, d'autres joueurs du côté des Lakers et des garçons sont passés au travers. D'Angelo Russell a à montrer au monde entier et enfin au moins aux États-Unis pourquoi c'était devenu un joueur lambda. Parce que un garçon qui n'aime pas la maillotche, qui aime bien se regarder jouer, qui est trop facile, et en play-off ça n'existe pas, parce qu'il faut aller au turbin, et D'Angelo Russell est trop précieux et trop soft pour jouer ce genre de match là. Alors David Ham l'a sorti du 5 pour mettre Dennis Schroeder, mais ça n'a pas fonctionné. Malgré tout, les Lakers, ils ne font pas une série catastrophique. Il n'y a pas un moment sur le 4-0 où il y a un blitz et il n'existe pas. Ils sont plus ou moins dans les rencontres 4 fois, sauf qu'il y a un garçon ou deux garçons ou trois garçons du côté des Nuggets qui ont mieux répondu, parce qu'on parle de Jokic, Murray, la doublette, mais l'effectif de Denver, il n'y en a pas un qui passe à côté. Caldwell Pope a été fantastique, Aaron Gordon,
il est
exceptionnel,
lucide,
bien sûr. Michael Porter Jr. a mis des énormes tirs, Bruce Brown aussi. Ils ont 7 joueurs qui ne sont pas passés à côté, et c'est trop par rapport aux Lakers, où
pourtant 7 Nuggets, c'est pas énorme quand même.
7 c'est pas énorme, il n'y en a que 4 7,
on sait aussi que c'est
réduit
en,
oui,
en termes de rotation dans les playoffs NBA, et c'est normal.
Et les Lakers, eux, ont tenté de survivre grâce à LeBron, à AD, Austin Reeves qui fait magnifique finale de conférence. Austin Reeves, il n'est pas passé à travers une seule rencontre, et Rui Hachimura, mais après c'est le désert, quoi. C'est le désert. Et si on doit parler de LeBron, bon, hier il fait un match exceptionnel, il bat son record en carrière sur une mi-temps, il a 31 à la mi-temps, mais
il est pas clutch.
Mais sur la série, LeBron n'a pas fait gagner un match sur les quatrièmes quart-temps, il est passé au travers de quasiment tous les quatrièmes quart-temps, et encore hier,
ses stats sont monstrueuses quand même.
Ses stats sont monstrueuses pour un mec qui a 38 ans.
Il est presque en triple-double. Hein.
Je suis d'accord avec toi, Pierrot, mais il y a aussi
28 points, 10 rebonds, 10 passes. Hein.
C'est l'aspect brut des chiffres, mais ce qui s'est passé sur les matchs, LeBron James n'a pas fait gagner son équipe. Hier, c'est encore lui qui a le dernier ballon pour éventuellement aller en prolongation. Il se fait contrer par Aaron Gordon. Oui, il joue beaucoup. Mais bon, c'est LeBron James. Mais on peut attendre aussi de lui qu'il fasse gagner un match.
Évidemment, sauf que il joue 48 minutes. Je crois, je suis même pas sûr qu'il sorte un moment.
Qu'il sort 4 secondes.
Oui, voilà, c'est assez monstrueux. Je pense qu'effectivement, la problématique, c'est plus la rotation que LeBron James sur ce moment-là. Il doit arriver un peu plus frais sur le dernier quart-temps. Il a tout donné sur la première mi-temps. On voit que la deuxième mi-temps, c'est plus compliqué. 9 points sur la deuxième mi-temps.
Comme disait Stephen, quand on voit les matchs, ils sont globalement au coude à coude au début du quatrième quart-temps.
C'est ça qui fait peur.
Ils sont au coude à coude et ils s'effondrent. Je pense que physiquement, il manquait de la gomme. Je pense qu'ils en ont laissé beaucoup contre les Warriors. Il y a quelque chose qui manquait, un second souffle que les Nuggets avaient. Je pense aussi le jeu, on voit que c'est quand même beaucoup de 1 contre 1 côté Lakers. Si on veut essayer de jouer vite l'avant, tu vois, vite pour aller marquer. Tu sens que quand c'est posé, ils avaient beaucoup de mal. Et quand tu vois en face les Nuggets, le jeu, ça régale. Les passes, ils font toujours plus de passes que les Lakers sur tous les matchs. Tu vois Jokic, évidemment, en passeur incroyable.
Mais c'est pas un peu normal, parce qu'il y a une construction d'équipe. Il y a une équipe qui s'est construite dernièrement.
Absolument, tu vois, c'est logique.
Qui travaille depuis des années et des années pour arriver à cette alchimie collective.
Et je pense que les Lakers paient leur incroyable run pour aller faire les playoffs, se qualifier. Et tu sens que ouais, physiquement, les mecs, ils pouvaient plus. Et donc, ils ont lâché à chaque fois en fin de match.
Et ça paie aussi le manque de rotation pour Anthony Davis, qui est usé. Hier, il m'a fait mal au cœur. Il était cramoisi, main sur les genoux, à chercher un second souffle. Et il paye sa débauche d'énergie contre les Warriors, parce que c'était lui la clé de la réussite, et il a beaucoup joué et touché beaucoup de ballons. Et là, il a dû scotiner Nikola Jokic, qui, je ne veux pas dire détruire, parce que les chiffres d'Anthony Davis sont plutôt corrects, mais l'impact sur le jeu qu'a Jokic par rapport à ce qu'a eu Anthony
Davis. Oui, on se demandait si c'était la clé de la série. Bon, ça a été la clé de la série.
Oui, ça a été la clé de 12, la clé de 14, la clé de 8, hein, Nikola Jokic. Mais bon, Jokic a gagné son match-up, mais AD était trop fatigué, trop usé.
Après, il a plutôt bien défendu, mais quand il prend des tirs en cloche, Jokic.
Personne ne peut défendre, personne au monde
il détruit le moral, il détruit le moral des gens, Jokic, parce que t'as l'impression de bien défendre et il t'envoie un tir sur un espèce de fadeaway tout pourri en déséquilibre qui jette un ballon.
Il a un pacte avec le diable.
La formule est très bonne, j'ai trouvé. Ouais. Il a fait un pacte avec le diable, ce mec. T'as raison.
Non, c'est pas possible de mettre ses shoots. Les shoots, je prends pas les mêmes shoots, évidemment, mais c'est pas possible. Qui peut défendre ça?
Est-ce que c'est un joueur unique dans l'histoire, cette façon de jouer à la fois intérieur et meneur? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Est-ce qu'il y a un mec qui est comparable, quelque chose qui ressemble à ça?
Dans le basket moderne, non. Alors oui, on a eu peut-être avant des mecs qui étaient ultra dominés, qui étaient capables de faire plein de choses, mais un mec dans le basket moderne, capable d'imposer son propre rythme, parce qu'il joue à son propre rythme, amener le ballon où il veut, prendre les rebonds, distribuer le jeu et marquer les points, enfin, moi j'avais jamais...
C'est un mec qui peut te détruire une défense adverse
par son simple talent.
Scorer, par son simple talent, par sa simple lecture de jeu, d'orientation de jeu, de la qualité de passe, du rebond offensif. Il n'est pas obligé de te mettre 40, alors il peut, hein, si, de temps en temps. S'il a besoin, mais il peut te détruire une organisation défensive uniquement par sa qualité de passe et sa qualité de lecture. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans la Ligue aujourd'hui.
Il sait quand prendre le tir, il sait quand faire la passe. Enfin, c'est assez dingue parce que souvent.
Et puis il a réussi sa passe aussi. Parce que c'est quand même une qualité de main incroyable.
Quand tu es shooter et tu joues avec Nikola Jokic, les ballons, il arrive plein de poitrine comme ça. C'est confortable après pour tirer.
Alors, du coup,
dans les chaussettes.
Est-ce qu'ils sont injouables? Est-ce que pour vous, il n'y a pas d'autres champions possibles que Denver?
Bah, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce qu'ils risquent de tomber contre le Heat. Alors, c'est pas fini, mais ils risquent de tomber contre le Heat et on sait ce qu'est capable cette équipe des Heat. Franchement, ce qu'ils font. Le Heat, c'est monstrueux.
Parce qu'il ne faut pas oublier, bon là, ils sont en train de faire exploser Boston, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même sorti Milwaukee, qui était avant les playoffs le favori, même devant Denver.
Hein. Les Henrik Rah qui viennent de nulle part. Hein.
L'équipe du Heat, franchement, personne ne l'attendait. À chaque fois, on dit, ah, c'est leur place fond de verre, ils n'arriveront jamais à passer au-dessus. Ils sont toujours là. Ils trouvent toujours des solutions. Butler, bien sûr, mais Adebayo, Lowry, tout le monde répond.
J'ai hâte de voir Adebayo contre Jokic.
Ouais, mais alors, si Anthony Davis s'est fait manger, Adebayo, on a peur pour lui quand même, non?
Bon, on peut avoir peur pour lui. Après, ils ont la possibilité de Rick Spoelstra est un coach fantastique. Il est capable, je pense, de trouver une stratégie. Même si bon, je pense qu'il y a pas mal de coachs qui ont déjà étudié une stratégie anti-Jokic.
S'il y avait une stratégie anti-Jokic qui fonctionne, elle serait déjà appliquée.
Mais la clé pour Miami, si jamais ils vont en finale, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation de Boston, ça va être de limiter l'impact de Jamal Murray. Parce que Jokic, j'ai du mal à croire que tu puisses limiter son impact dans le jeu. Par contre, si tu diminues l'impact au scoring de Jamal Murray, qui a plus de 30 points. Hein, sur
il
la
a,
série.
Il a 32-5, je crois, et il fait deux matchs à 37.
Et c'est là la clé, parce que si Jokic brille plus Jamal Murray, ça va être compliqué de s'en sortir. Donc plutôt se concentrer sur les forces extérieures de Denver et laisser peut-être Jokic faire des stats qu'on n'a jamais vues, mais tu as plus de chances de gagner si les autres à côté
se concentrer sur ce que tu peux arrêter et laisser jouer celui que tu ne peux pas arrêter, tout simplement.
Alors c'est ce qui rend ces Nuggets beaucoup plus forts, parce qu'il faut se rappeler que l'année dernière, ils n'avaient pas Murray et ils n'avaient pas Porter Junior. C'était quand même c'est deux starters, en fait, tout simplement. Et on voit, et la diff aujourd'hui, c'est clairement le favori pour être champion NBA.
Et alors, quand tu dis on ne sait jamais si Boston renverse la situation, est-ce que vous pensez que ça peut arriver cette fois-ci? C'est jamais arrivé, on est d'accord.
Non, c'est jamais arrivé, donc c'est dur de dire qu'on le pense.
Et ce qui s'est passé sur le troisième match, tous les signaux sont en rouge pour Boston.
Je ne sais pas ce qui se dit, je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai lu deux, trois choses aux États-Unis disant que l'équipe est en train d'exploser, c'est-à-dire que le collectif. Il y a un problème au sein de l'équipe,
coach,
que c'est pas que basket.
Le coach est très critiqué.
Le coach a reconnu qu'il avait fait 2-3 erreurs, mais qu'il n'y a plus d'équipe. Alors je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est une façon de raconter le désastre de cette finale de conférence.
Mais ce match 3, ils l'ont lâché et ce n'est pas dans l'ADN de Boston de lâcher un match comme ça. Ils se sont fait gifler, punir sans aucune réaction. Et tu as l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens et que. Ce qui faisait la force de Boston en saison régulière, et tu t'aperçois que finalement c'est pas le même sport la saison régulière et les playoffs, c'est que en saison régulière tu peux te permettre de faire des erreurs de coaching, mais tu t'en sortiras toujours par les qualités individuelles. En playoff, à un moment donné, il faut coacher, il faut trouver une osmose collective, il faut trouver plusieurs solutions, et Boston est trop caricatural sur Jalen Brown et Jason Tatum.
Ce qui est dingue, c'est que pour le coup, si on réécoute le podcast de la semaine dernière, on s'attendait pour le coup vraiment pas à ça. On pensait justement que le collectif et l'expérience de Boston, ce serait la clé de cette série et qui ferait la différence là-dessus. Alors, et on voit tout l'inverse en fin de compte.
C'est un navire sans commandant, hein, tout simplement. Et Joe Mazzulla est énormément critiqué. Il faut rappeler que c'est un coach rookie, qu'il a remplacé Udoka l'été dernier.
Un peu au pied levé quand même aussi.
Un peu au pied levé. De ce qu'on lit des articles américains, ça dit que Mazzulla s'est inspiré de ce que faisait Udoka. Donc sur la saison régulière, ça allait. Mais là, comme dit Stephen, il y a un peu plus d'impro, de flair, de sens tactique, d'expérience. Et tu te retrouves face à Eric Spoelstra, qui est peut-être aujourd'hui le coach le plus expérimenté en campagne de play-off, parce qu'il en a, hein, que ce soit avec LeBron, le Heat, qui est pour moi le meilleur coach de la Ligue. Hein, Eric Spoelstra, même avant cette campagne, je trouve incroyable ce qu'il fait à Miami. Et les Celtics, ouais, ils sont en train d'exploser. Et je pense que Mazzulla ne sera plus le coach l'année prochaine.
Après moi, je veux veux bien qu'on blâme Joe Mazzulla, qui est quand même un coach rookie. Il a pas l'entière responsabilité de cette débâcle d'être mené 3-0. À un moment donné, les joueurs ont aussi le droit de réagir avec l'orgueil et de l'ego. Et ce qui est malheureux, c'est que Jason Tatum est en train de se faire détruire par Jimmy Butler. Et que ça fait un peu tâche quand tu es considéré comme le top 3 ou top 5 des meilleurs joueurs de la ligue.
On l'a dit, hein, Jimmy Butler aussi, qui élève tellement son niveau de jeu quand c'est les playoffs. Et tu l'as dit tout à l'heure, je te rejoins complètement. C'est un autre sport. Hein.
Jimmy Butler, c'est Michael Jordan. Hein, je te le dis tout de suite. Sur les playoffs, c'est Michael Jordan, mon grand. Il porte l'équipe tout seul. Il donne une confiance à des garçons qui ne sont pas attendus à ce niveau-là. Et ça aussi, c'est la force d'un leader. Gabe Vincent, Max Truss, tous ces mecs-là. Et c'est la force d'un leader, être capable d'emmener des garçons qui ont peut-être un plus petit pédigré et qui ne sont pas attendus à ce niveau-là, mais leur donner un niveau de confiance pour qu'ils soient aussi forts que ça.
Oui, mais qui ont été choisis pour ça. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est pas sur le papier les meilleurs joueurs du monde, mais par contre, ils ont été choisis parce qu'ils ils intégraient bien au projet du 8, et le projet du 8, c'est des chiens de
les
chiens.
Et ils perdent Tyler Herro en tout début de campagne de playoff. Et
Victor Oladipo aussi.
Oui.
C'est un Basket Time spécial Denver Nuggets. Si on va revenir à l'autre actualité de la semaine qui concerne Denver, bien sûr, c'est la retraite de Carmelo Anthony.
Jokic on the run. He puts it away. Put him in the dunk contest. Nikola Jokic, the two-time MVP.
Jokic. Test just knocks it down. 31 for Jokic.
That's the one.
Pass to Jokic, collects it behind the back. Oh! Oh! Whoa!
Jokic has to put it up. Falling away, puts it up. Bang! Nikola Jokic, what a shot!
Alors Carmelo Anthony donc met fin à une très longue et très belle carrière, et on va en profiter pour parler de lui bien sûr, mais continuer sur l'actualité des playoffs. Est-ce que selon vous Nikola Jokic a déjà fait mieux que Carmelo? Alors Carmelo, c'est 8 saisons à Denver, c'est une finale de conf, c'est évidemment beaucoup de désillusions aussi, mais c'est un joueur unique, c'est un joueur qui restera dans les mémoires, dans le top 10 pour l'instant en tout cas, des meilleurs marqueurs de l'histoire, avec une carrière inachevée. C'est-à-dire qu'il manque ce titre, il manque cette consécration suprême, et peut-être aussi que c'est sa limite. Peut-être un garçon qui a eu du mal à s'intégrer dans un collectif, parce qu'il a essayé beaucoup de choses quand même, Carmelo. Pour vous, est-ce que Jokic est déjà au-dessus dans ce qu'il a fait là, dans cette demi-carrière?
Oui.
Oui.
Tout le monde?
Oui.
Deux titres de MVP, t'emmènes Denver en finale.
Ce qui n'était pas arrivé depuis 47 ans, donc jamais.
Et ce qui est marrant, c'est que Melo a joué 8 ans à Denver, et c'est la 8e saison de Nikola Jokic, donc les comparaisons, elles peuvent être faites. Mais est-ce que ce qu'a fait Nikola Jokic en emmenant Denver en finale NBA, le fait qu'il soit deux fois MVP, fait qu'il est au-dessus maintenant.
Après, c'est deux salles, deux ambiances en plus. Hein, parce que c'est un mec ultra individualiste et l'autre, un mec ultra collectif qui fait jouer son équipe. C'est vraiment.
Mais il ne faut pas oublier aussi que Carmelo, quand il arrive en 2003, je crois, à Denver, c'est le désert de résultats sportifs pour les Nuggets qui n'ont pas fait les playoffs pendant 8 ans. Et Melo, sur ses 8 saisons à Denver, c'est playoffs chaque année. Alors certes, il n'y a qu'une fois où il gagne deux séries, ils vont en finale de conf et après, c'est défaite au premier tour. Mais il a remis Denver un peu sur la carte de la NBA, qui était une franchise de la loose, qui souffrait aussi dans la ville, puisque les Broncos avaient gagné le Super Bowl deux fois de suite, puisque l'équipe de hockey, là, les Avalanche, je sais pas quoi, avait gagné la Coupe Stanley.
Respect le hockey quand même.
Et l'équipe NBA était un peu la loose de la ville de Denver, et Melo a ramené un petit peu quand même les Nuggets sur la carte. Oui.
Arnaud, pour quelle raison tu estimes que c'est déjà réglé ?
Quand tu vois l'accomplissement de Jokic avec ses deux titres de MVP, et on se dit peut-être que ça valait le coup de 3.
Est-ce que Carmelo n'a pas encore plus incarné cette franchise que ne le fait Jokic ?
Bah Carmelo, il est parti au bout, il s'est fait trader au bout de 8 ans. Là, tu sais que Jokic, il va rester. Donc pour moi, sur le fait que Jokic va plus marquer l'histoire des Nuggets que Carmelo, va pas y avoir de débat.
Et mais avec son bandeau et son maillot bleu ciel, je veux dire, l'image, elle est iconique.
Ouais, mais est-ce que tu l'associes pas plus à New York que sa terre natale, finalement, où il est revenu,
peut-être?
Non, je suis assez d'accord. Enfin, les deux, je pense que les deux sont intéressants, mais là, tu parles d'image.
Parce que je pense qu'en termes de basket, le débat, il est réglé.
Et
Carmelo, il a un truc qu'on peut de joueurs, c'est une cote de sympathie immense, quand même. Enfin, je pense pas qu'il ait beaucoup de détracteurs, Carmelo. Je pense pas qu'il ait beaucoup de...
Le problème, c'est qu'à Denver, il s'est pas fait que des amis, parce que ça s'est fini un petit peu en conflit. Il a demandé son trade, parce qu'il voulait aller à New York, et quelques fans des Nuggets lui en veulent encore. d'accord. Donc oui, on a tous cette image de Melo, le bandeau, le maillot Denver qui est magnifique.
Leclerc.
Super stylé, gros scoreur.
Son face-up, ses filoches, ses pull-up à deux points. Donc oui, ça c'était une image marquante. Maintenant, Jokic, on parlera de lui dans les mêmes phrases que le Shaq, que Will Chamberlain, que Bill Russell, ces garçons de cet acabit-là. Et Melo, peut-être que son nom, bah, ça sera avec des James Harden ou des Russell Westbrook, des garçons qui n'ont pas de titre. Et encore, Harden et Westbrook ont été MVP de la saison régulière. Melo ne l'a jamais été.
Non mais, alors, c'est une comparaison intéressante. Est-ce que dans ton équipe, tu préfères avoir un Carmelo ou un Russell Westbrook?
Bah, si j'ai envie de toucher le ballon. Westbrook,
je crois que tu parles de Carmelo. Non.
Pas besoin de réfléchir.
Je pense qu'en termes de basket, on va vite avoir fait le tour de la question. Mais si tu me le compares à des Harden ou Westbrook, moi, dans mon esprit, je ne suis pas un spécialiste de basket comme vous, il est au-dessus de ces mecs-là. Voilà, dans l'histoire de la NBA, dans ce qu'il a fait, dans sa carrière, mais peut-être que je me trompe, hein,
En NBA, tu peux réfléchir. Si tu parles de basket FIBA, tu prends Carmelo.
Voilà,
200 millions de fois, hein, par contre.
C'est la façon dont.
Joueur extraordinaire en FIBA.
La façon dont Carmelo a dominé le basket FIBA, ce qui manque encore un peu à Jokic. Alors, il y a l'équipe serbe, c'est un petit peu compliqué, mais je pense, et puis je le souhaite, je pense qu'il va ramener au moins un titre avec les Serbes dans les années à venir, mais la façon dont Carmelo a explosé le basket FIBA. Moi, j'ai des souvenirs. Les JO de Londres, c'est quoi, contre le Nigeria, où
il
plante
il met 37
points en 14 minutes. C'était l'arme ultime, en fait, en FIBA, comme Kevin Durant l'est aussi un peu aujourd'hui.
Kevin Durant a dépassé Carmelo, oui, là, dernièrement, oui. en termes de scoring.
Kevin Durant, de toute façon, était au-dessus de cette catégorie-là. Il est dans les mêmes discussions que les joueurs que tu citais précédemment.
Mais en termes de talent offensif, il n'y a pas un énorme écart entre Kevin Durant et Carmelo Anthony. Carmelo avait une palette. Mec, c'était un scoreur exceptionnel.
Si, Carmelo Anthony, t'imagines.
Et quand il arrivait au basket FIBA, c'était le cauchemar de tous les match-ups, parce qu'au basket FIBA, il arrivait sur un poste 4. Mec, c'était indéfendable. Parce qu'il avait physique pour poster, pick and pop, 3 points. Il était un joueur à basket FIBA. C'était le poste 4 parfait pour le basket FIBA, Melo. Et on peut lui rendre ça, cette capacité d'avoir un profil NBA, scoring NBA sur de l'isolation, du jeu un peu soliste, et arriver en basket FIBA, et être capable de s'adapter aux règles FIBA, et malgré tout, de défoncer.
Dernier point sur la carrière de Carmelo, est-ce qu'il est responsable de l'échec de New York, parce qu'on a beaucoup là pour le coup son individualisme a été pointé du doigt plus que quand il était à Denver pour le coup.
Après, l'équipe était
dans une franchise qui marche jamais, hein, donc que ce soit avec ou sans Carmelo, bon, c'est
il a échec pas eu de bol, échec, parce qu'ils avaient filé des gros contrats à Tyson Chandler, Stoudemire 6 mois ou un an avant qu'il y ait le trade, et ça a fait des flops, hein, puis après, c'était pas le Stoud de Suns, et Tyson Chandler a fait le braquage après Dallas.
Après, il y a des bons passages à New York, hein.
Il y a une demi-finale de conf,
je t'annonce qu'il y a une hype incroyable à Big Apple avec Melo qui joue à un niveau fantastique, mais si tu regardes sur la globalité, oui, ça passe.
Après, il avait pris du poids. Souviens-toi, à un moment, il avait un bon petit bide, hein, Carmelo. Hein. Non, mais c'est vrai. Tu voyais le maillot, les photos, tu dis wow.
Et enfin, dernière parenthèse, cette fois-ci sur Jokic, parce qu'on a parlé de basket FIBA. Quand est-ce que la Serbie va exploser? Est-ce que la Serbie peut faire un coup, par exemple, aux Jeux Olympiques?
Franchement, c'est impossible à dire. Parce que sur le papier, ils ont
Doncic l'a fait avec la Slovénie.
Ouais, mais sur le papier, ils ont une équipe incroyable. Ouais, c'est à l'Euro, mais...
Oui, mais c'est déjà pas mal. Et puis, ils vont quand même en demi-finale des Jeux.
Oui, après les Serbes, ils ont fait plusieurs finales de Coupe du Monde.
En fait, on s'en rappelle pas, mais c'est vrai que sur le dernièrement, ça a été plus compliqué parce que déjà, tout le monde n'arrive pas. Après, c'est compliqué pour trouver le bon coach pour gérer ses égos.
Mais quand
t'as
un joueur à ce niveau-là, quoi. Après, je sais que Giannis non plus le fait pas avec la Grèce. Je sais bien sûr tout ça, mais c'est la question qui est intéressante.
Est-ce qu'il y a assez d'espace
aussi
pour Nikola Jokic dans le basket européen, enfin FIBA, pardon, pour pouvoir se développer autant qu'il le fait.
Je me souviens avec Stephen, était à Berlin, il n'avait pas fait jouer le
Pesic, il méritait une énorme gifle, hein, Pesic. Il n'avait pas fait jouer dans
quatrième
le quatrième
carton
du quart de finale, il avait été honteux, Pesic. Maintenant, il faut un peu recycler, je l'aime bien, coach
mais
fantastique.
Mais à quel âge, surtout, Pesic?
À un moment donné, faut passer...
Il a plus de 70 ans.
Oui.
c'est pas un critère, regarde Popovic, il est toujours là aussi, lui. Hein.
Oui.
Il a peut-être même resté là encore un peu.
Il a gagné 20 matchs.
Pour Wembanyama.
Je pense qu'il va en gagner plus.
Pour le coup, c'est peut-être pas de sa faute.
Et pour revenir sur le Jokic Melo, le problème, c'est que Melo va devoir attendre un bon bout de temps s'il veut voir son maillot retiré, parce qu'ils ont tous les deux ont le numéro 15. Donc il va devoir attendre la fin de carrière.
Ah ouais, c'est dur ça.
Pour retirer le maillot de Carmelo.
Allez, Basket Time spécial Denver Nuggets. On continue sur Carmelo Anthony.
In overtime, Carmelo Anthony with the quick release. He has 40 points.
And there's the foul. They didn't call it, and Carmelo hits it. Carmelo hits it. He hit a three.
Carmelo's got it.
And he rams it home.
The slam of Gemma.
Pass. Melo. Oh, wow. Still standing. It's still standing.
No words needed for that.
Anthony by Finley. Oh, what a play by Carmelo Anthony.
Alors, Carmelo Anthony, on va quand même se remémorer des grands souvenirs. Ces plus grands matchs, alors vous avez le choix, hein. Vous pouvez partir où vous voulez. Fred, quel match as-tu choisi ?
Ben moi, on en a parlé tout à l'heure, hein, avec Arnaud. Moi, j'ai choisi un match de FIBA et j'ai choisi un match des Jeux Olympiques à Londres en 2012. Un match contre le Nigeria, un match incroyable.
États-Unis-Nigeria.
États-Unis-Nigeria, alors un match évidemment à sens unique. On s'imaginait forcément cette équipe de Team USA capable de déchirer cette équipe du Nigeria. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé avec un record de points marqué, 156 de mémoire. Mais vraiment, il faut mesurer ce qu'a fait Carmelo Anthony dans ce match. Alors oui, tout le monde va me dire, c'est assez simple quand le match est aussi simple, etc. Sauf que ce garçon a été capable de mettre, et on l'a dit tout à l'heure, hein, 37 points en 14 minutes.
C'est vrai que c'est fou.
Non mais imaginez un petit peu, avec des pourcentages incroyables.
13 sur 16. Il a raté de lancer,
ouais. Et finalement, c'est incroyable. Et on en parlait tout à l'heure avec Stephen. J'ai revu les images de ce match. En fait, il met 10 paniers à 3 points dans ce match, d'accord. Et alors, il y en a plusieurs qui sont seuls, mais il y a beaucoup de pick and pop, parce que c'était insoluble.
C'est quoi pick and pop?
C'est-à-dire que tu fais un écran, et normalement, un écran sur porteur, c'est-à-dire que tu portes un écran sur le défenseur de celui qui a le ballon, soit normalement tu roules au panier. Mais quand tu es un joueur extérieur, tu as tendance, et Stéphane aussi, qui n'était pas un joueur extérieur, mais qui aimait bien pick and popper, tu restes sur la ligne à 3 points. Donc il reculait sur la ligne à 3 points, et là, tu n'as pas de solution, parce que si tu mets une grosse pression sur le ballon, tu es à 2 sur lui, et donc lui, il est tout seul à 3 points, soit tu laisses le joueur avec le ballon, et il a un avantage. Donc là, ils ont choisi plutôt d'être sur le joueur avec ballon, et Carmelo Anthony s'est retrouvé combien de fois seul à 3 points, et il a sanctionné à chaque fois, avec un pourcentage incroyable, 10 paniers à 3 points en 14 minutes.
En
12 tentatives, avec un pourcentage incroyable, son shoot est magnifique, on voit qu'il maîtrise le jeu FIBA. Alors c'est vraiment, c'est une histoire d'amour, hein. Carmelo Anthony avec le jeu FIBA, tu le disais, hein, champion olympique 3 fois, il a fait d'autres campagnes en plus. Voilà, monstrueux en jeu FIBA, et contre le Nigeria, vraiment c'est le clou du spectacle, parce que 37 points en 14 minutes, franchement...
Ils avaient perdu, hein. Les Américains avaient perdu.
Non, de quoi, le match 156 à 73.
Et je crois qu'ils n'avaient pas tué, ils avaient pas tué plein de records. Ils ont battu le nombre de tirs à 3 points inscrits.
Je te dis, 156 points marqués.
41 passes décisives, mon gars. C'est,
ouais. Ouais, mais ce qui était pas le record, et égalé seulement.
Arnaud.
Vendredi 24 janvier 2014, Manhattan, New York, le Madison Square Garden. Les Knicks font grise mine. Ils sont sous les ordres de Mike Woodson, brillant coach. Ils sont à 15 victoires et 27 défaites. Ils restent pourtant sur une demi-finale de conf. Il y a quelques mois, les Knicks jouent ce soir Charlotte, coachée par Steve Clifford. C'est pas mieux d'ailleurs, hein, 19 victoires, 25 défaites. Bref, un petit match de saison régulière un peu fade, mais le Madison Square Garden est à guichet fermé comme d'habitude. 19 000 spectateurs qui vont s'avérer des chanceux, parce que Carmelo Anthony, arrivé en 2010 depuis Denver, l'enfant de New York City, va marquer l'histoire des Knicks ce soir-là autant que son idole Bernard King. Melo va battre deux records. Les 60 points de Bernard King avec le maillot des Knicks, record franchise, puis record de points au Madison Square Garden qui était détenu jusqu'alors par Kobe Bryant et ses 61 points. Carmelo Anthony ce soir-là, 62 points à 23 sur 35 au tir, 6 sur 11 à 3 points, 13 rebonds en 38 minutes. Mais il y aura un hic dans cette soirée. Mike Woodson, le coach des Knicks, bench la star à 7 minutes de la fin parce qu'il n'a pas envie qu'elle se blesse. La rencontre est pliée et qu'il faut faire un peu une remontada au classement. Mais toute la salle demande, tout le garden, ça a quand même du poids, hein, quant à tout ce public qui demande à revoir le joueur pour qu'il aille chercher plus, allez, pourquoi pas, les 70-75 points. Mais non. Alors, il y a même LeBron qui va tweeter, qui n'était pas devant sa télé, mais qui voyait un petit peu sur les réseaux sociaux la perf, il avait dit « Come on, Mike Woodson, keep Carmelo in, I want to see 70-75, 70-75. Allez, Mike Woodson, laisse Carmelo jouer, je veux voir. » C'est 70-75
points. Là, le coach, il doit faire preuve d'un peu plus de psychologie. Non
regarde Pep Guardiola qui avait sorti
Moi, je trouve ça dingue qu'il le sorte.
Toi, tu veux qu'on fasse péter le record, toi.
Il y a parfois, quand tu vis une soirée historique, il faut être capable de le ressentir. Qui te dit qu'ils n'auraient pas fait une meilleure fin de saison ? S'il se passe un truc encore plus fou, si le mec est ovationné.
On aime beaucoup ça en NBA. Moi, ça me surprend vraiment que le coach ait pris ses décisions. Après, parce que battre les records, c'est plutôt le truc qu'ils aiment.
Peut-être qu'il s'est dit je l'ai jusqu'à qu'il batte le record de points au Garden et après je le sors.
Ouais, peut-être.
Sur ce match-là, il y a un truc incroyable aussi, c'est que Melo, il a fait 0 passe d'ess. C'est le deuxième joueur de l'histoire à mettre plus de 60 points et 0 passe d'ess. C'est qui l'autre ?
Bah, Kobe. Hein.
Exactement. Et deux trous noirs.
Stephen.
Bah, écoute, moi. Il n'y a pas vraiment de pléthore de choses historiques pour Melo. Ils l'ont dit, les 3 médailles d'or, le match à 37 points, le record au Garden. Moi, j'ai choisi un record un peu glorieux, peu glorieux d'ailleurs pour Carmelo Anthony, qui on le rappelle, c'est 10 fois All-Star, 6 fois dans une NBA team, une fois meilleur scoreur de la saison, 14 saisons à 20 points en plus. Et Carmelo est le seul joueur à avoir mis plus de 27 000 points sans être ni MVP de la saison régulière, ni champion NBA.
Alors attends, répète-moi, 27 000 points, sans être MVP,
ni champion NBA.
Ni champion NBA. Parce que
devant
c'est
lui,
le seul.
C'est le seul. Parce que devant lui, c'est LeBron, Chamberlain, Jabbar, Kobe, Jordan, Karl Malone, le Shaq. Et ces garçons-là ont tous concrétisé ce nombre de points inscrits, soit en étant MVP de la saison régulière, soit en étant champion NBA.
Donc ça veut dire quelque chose quand même.
Un petit peu, oui. Un petit peu. Ça veut dire qu'il a pas su faire gagner ses équipes ou il a été dans des équipes à la fin de sa carrière qui ont été un petit peu moyennes.
Oui, mais ça situe quand même le niveau du joueur.
C'est-à-dire qu'on est au niveau d'un joueur individuel et pas capable de faire gagner son équipe, pour résumer. En schématisant
peut-être. Mais bon, quand tu vois. Du coup, je le qualifierais, enfin, je le mettrais dans une catégorie de celle de Karl Malone, quoi, en gros.
Ouais, Karl Malone qui a été MVP de la saison régulière.
Ouais, mais pas champion, et après, ça compte quand même plus. Ça compte quand même beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est très bien d'être champion, enfin, d'être MVP, mais je pense que n'importe quel MVP, pas champion, échange son titre contre une bague. Je pense.
Après, Malone a su emmener le Jazz en finale NBA face au GOAT, quoi.
Mais t'as un côté Carmelo de rêve, la façon, moi je me souviens de son introduction au Madison Square Garden quand il arrive, la vidéo avec la chanson là, I'm coming home, enfin ça a vendu tellement de rêves à New York et t'as raison, il y avait une belle étincelle à un moment, Steven, je me souviens de ce match arraché contre les Bulls, ça va être le match de Noël ou quelque chose comme ça, où il met 2 tirs à 3 points, c'était la folie et c'est vrai que Carmelo a provoqué quelque chose par son transfert au Knicks chez les gens, le gars du coin en plus, vraiment un fan des Knicks de la première heure. Et même moi, tu vois, ça touchait de voir.
Un style de fou, une capacité à scorer dans tous les sens, un joueur fantastique quand même.
C'est donc un spécial Denver Nuggets et Carmelo Anthony cette semaine dans Basket Time. On termine avec le quiz.
Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
C'est pour Julien Lepers.
C'est la Watt.
C'est la Watt que je préfère.
Vraiment Watt.
Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Coco-coach.
Coco-coach, absolument. Qui est le meilleur quoi ?
Meneur.
Le scoreur.
Mais non. J'ai pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème ?
Un esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne débronzée.
C'est Christiane, l'esthéticienne, c'est Christiane Wood.
Avec lui, je sais jamais, il a posé des questions des mecs qui avaient deux majuscules dans le prénom.
Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette.
Ils sont très drôles ces jingles, ils sont un poil longs quand même.
Oui, non un petit peu, un petit peu.
On va les réduire, je pense. Donc, alors, le quiz varie entre des questions sur les Nuggets et des questions sur Carmelo Anthony spécifiquement. Et puis, bien sûr, ça peut se rejoindre, évidemment. Alors, on démarre avec ce que déteste le plus au monde Fred dans les quiz. Il faut retrouver l'auteur d'une déclaration.
J'adore.
Mais c'est facile.
Vocal ou c'est toi qui l'as dit ?
Non, c'est moi qui l'ai dit. Je ne pense pas recevoir le respect que je mérite.
Carmelo Anthony ?
Non. Et c'est pas la première fois qu'il dit ça.
C'est un peu
son mantra.
Mike Malone.
Jokic ?
Non.
C'est un joueur actuel ?
C'est un joueur actuel, c'est très actuel.
Jimmy Butler.
Jamal Murray.
Exactement. Mais si on gagne le titre, ça va tout changer. C'est vrai qu'il est un peu... Il a un petit complexe, ce mec, Jamal Murray. Il n'a fait que répéter ça tout au long de la saison. Il a dit que quand je suis revenu, là, je reviens de blessure, les gens vont voir ce que c'est le vrai Jamal Murray.
Oui, parce qu'il avait été fantastique dans la bulle. Et après, bah, quand tu es blessé, quand tu ne joues pas pendant un an et demi, on a tendance
est-ce
à t'oublier.
Est-ce que c'est un joueur sous-côté ?
Mais non, mais ça va, je suis d'accord avec Stéphane, ça va tellement vite dans la NBA. Il y a tellement des joueurs qui arrivent tout le temps. T'es blessé une année, bah, on ne parle plus de toi, c'est normal.
Peu, ouais.
Et d'ailleurs, pour revenir sur Jamal Murray, il arrive à Denver grâce à Carmelo Anthony. Parce que dans l'échange face à New York, il y a des assets de draft. Et en 2016, ils ont encore un premier tour de draft grâce au trade et ils prennent Jamal Murray en 2016.
C'est un joueur sous-côté ou pas ? Enfin, sous-côté, oui, tout à fait.
Bah, difficile à dire. Difficile à dire. Très, très bon joueur, mais comme il a été blessé, bah, les gens l'ont un peu oublié.
On verra si c'est un joueur FIBA, puisqu'il s'y joue avec le Canada, on le verra contre la France.
Premier match de la Coupe du Monde.
Tu crois toujours à cette équipe du Canada ? Franchement, sur le papier, c'est merveilleux.
Parce qu'il ne sait même pas qu'il est Canadien, Jamal Murray.
On va faire un vrai faux sur Carmelo. Anthony, ça va aller très vite. Une question chacun. C'est Arnaud qui commence. Carmelo n'a jamais fait partie d'une NBA First Team. Vrai ou faux ?
Faux.
C'est vrai, deux fois second team et quatre fois third team. Je ne vais pas poser à Steve parce qu'il vient d'en parler, donc tu savais, non ? Tu avais la réponse ?
Oui,
moi j'avais aussi.
On est d'accord. Denver, j'allais t'appeler Fred.
Le dernier dinosaure, c'est pour ça.
Carmelo a tourné dans un épisode de la série Esprit criminel. Il a fait un peu de cinéma, Carmelo.
Beaucoup de cinéma.
C'est faux, il a tourné dans New York Police Scientifique. Dommage.
Donc attends. Ça veut dire que t'es allé sur la page Wikipédia de Carmelo, t'as vu qu'il a tourné dans un épisode de New York et t'as dit bon, je vais changer, je vais trouver une autre série américaine.
Mais c'est pour ça que ça me paraissait trop retard.
Bravo,
que ce soit vrai.
Bravo.
Et enfin, Stephen, Carmelo Anthony.
Oui, qu'est-ce qu'il a fait ?
C'est le prénom de son père et le nom de famille de sa mère. C'est vrai ou c'est faux ?
Carmelo Anthony, c'est le prénom de son père qui devait s'appeler Carmelo et le nom de famille de sa mère, Anthony, c'est ça ?
C'est vrai ou c'est faux ça ?
Ouais, c'est vrai ça.
C'est vrai et ses parents s'appellent Carmelo Iriarte et Mary Anthony. Il a perdu son père à 2 ans et élevé par sa mère. Ça fait un point pour Steve. Ensuite, qui détient le record de nombre de matchs joués avec le maillot des Denver Nuggets ? Comment ?
Fat Lever ?
Non.
Alex English ?
André Miller ?
Ah bien, Stephen, je vous ai posé la question la semaine dernière. C'est pas possible quand même.
Ah, j'étais
Fred,
pas là moi.
Toi t'étais pas là, mais Fred quand même.
Ouais, j'étais là.
Je vous ai posé la question.
Mais c'était lui qui avait répondu déjà, non ?
Non, vous aviez galéré. Alors, c'est peut-être Steve qui avait fini par l'avoir, mais vous aviez galéré. Normalement, ça devait sortir vite là. Bon, bref, ça fait 2 points pour Steve. Tiens, Carmelo, toujours 3e de la draft 2003. Qui sont les deux joueurs draftés avant lui ?
LeBron.
Et.
LeBron et.
Wade ? Non.
LeBron et Garnett.
Je vais vous aider, hein.
Non.
C'est une énorme draft, mais là...
C'est un flop, le 2 ? Olomokandi.
C'est pas au niveau, quoi.
Non, c'est 99, Olomokandi.
Anthony Bennett. Non, pas Anthony Bennett.
Cherche au lieu de regarder Steve, toi. Fred, tu regardes Steve, t'as trop de chance, t'as bonne réponse.
Je suis au spectacle, moi, là.
LeBron James en 1, Carmelo en 3 et en 2.
Mais je me rappelle plus du tout.
C'est un Européen.
Un Européen en 2 ?
Ouais.
Un Européen en 2 ?
Ouais.
Nico Stakalashvili.
Non, Milicic. Si c'est Milicic.
Darko Milicic.
C'est l'année d'après. Ah
bravo. Bah, c'est pour toi.
Oui, non, mais en fait, je l'avais dans ma tête. J'ai dit non, mais ça doit être 2004, Epison. Mais non, oui.
Ouais,
bravo.
Aussi,
je crois que j'ai déjà donné Milicic dans un précédent quiz. Hein, c'est mon gars.
Le mec dit Milicic à chaque fois. À un moment, voilà. Tu vas gagner.
On peut dire que c'est un flop ou.
Oui, oui.
Enfin, bon, c'est au niveau, quoi.
Il est champion de billets, hein, Darko.
Bravo.
Avec le Piston.
Un vrai ou faux sur les Nuggets.
Et chacun son tour.
Et alors, normalement. Chacun son tour. Et normalement, ça, c'est pour Fred.
C'est de la bouffe.
C'est quoi ? C'est de la ville de Denver ?
Les nuggets de poulet, Stephen, ont été inventés par la chaîne de restauration McDonald's. Vrai ou faux ?
Les nuggets de poulet, frère. Basket time, là.
Bah, il m'a demandé un truc sur des épisodes.
Comme ça, on fait un peu de culture générale.
Inventés par le McDo ? Ouais. Bah, c'est faux.
C'est faux. C'est pourtant, c'est l'histoire que raconte McDonald's, mais c'est faux. Ça a été inventé en 1950 par Robert C. Baker, scientifique spécialiste du poulet, et qui s'est fait voler sa belle invention.
D'accord.
Dans la narration par McDonald's.
Bah, McDonald's, ils ont volé plein de trucs. Hein.
C'est à Arnaud de répondre. Les nuggets sont fabriqués à partir d'un mélange de chair, de peau, de tendons, d'os et de cartilage.
C'est vrai.
C'est tout à fait vrai, absolument. C'est pas la partie la plus noble du poulet,
non,
les nuggets.
Il vaut mieux les faire maison, les nuggets. Hein.
Et enfin, Fred, nugget signifie pépite en raison de la couleur dorée qui rappelle les pépites d'or.
Oui.
C'est vrai, bravo, vous êtes très bon sur les nuggets.
Ça.
On enchaîne.
Bah, oui.
On cherche un joueur qui a joué à Denver.
Oui.
Un joueur qui a joué à Denver.
Dernier dinosaure.
À Atlanta, à Philadelphie, aux Nets, aux Knicks et à Houston.
Miller ?
Qui a démarré à l'université de Georgetown pour devenir médecin et non pas basketteur. Il est arrivé à Georgetown pour faire des études de médecine, mais ses 2m18 ne sont pas passés inaperçus et donc il a intégré l'équipe universitaire avant de faire une grande carrière NBA. Je vous donne un de
ses... Denver, c'est son premier club ?
Mutombo ?
Dikembe Mutombo. Bravo Fred. L'indice suivant était qu'il a un deuxième prénom qui est Jean-Jacques. Je ne sais pas si ça vous aurait mis sur
pas
la
pas du tout.
Oui. Goldman.
Bon. Donc le score, un point sur Goldman, le score, parce qu'on on approche du money time. Stephen, 3 points. Arnaud, 2 points. Fred, 2 points. Et là,
non, pour Fred, 3 points.
3 points. Oui, et pour voir si vous connaissez vraiment bien les Nuggets, nous allons faire un questionnaire. Carmelo ou André Miller, ou les deux, ou aucun des deux. Ok, okay. C'est bon pour vous ? Carmelo, Anthony, André Miller, les deux ou aucun des deux. Fred, ne fais pas les gros yeux, tu es tout à fait capable de répondre à ces questions. Ton grand problème dans ce quiz, c'est
la, confiance.
La confiance en toi, absolument. On y va, on démarre avec Stephen.
Oui.
J'ai 9 triple-doubles dans ma carrière. André Miller, Carmelo, Anthony, aucun des deux ou les deux.
J'ai 9 triple-doubles dans ma carrière. Je vais te dire, je ne pense pas que Carmelo ait fait 9 triple-doubles. Parce que quand tu mets 62 points et 0 passes, il faut vraiment être dans un bon soir. Donc je vais dire Dédé Miller.
Et c'est un très bon raisonnement. Carmelo n'a que 2 triples doubles dans sa carrière.
Son record de passes, Carmelo Anthony, je crois que c'est 11. Oui.
mon cher Arnaud, j'ai joué aux Blazers.
Les deux.
Bravo Arnaud, oui. Les deux. Bravo Arnaud. Et enfin Fred, j'ai joué avec LeBron James.
Carmelo Anthony et, et Miller. Les deux.
Le regard, le regard.
Donc ta réponse c'est les deux.
Oui, les deux.
Et ben t'aurais dû rester sur ta première
impression. Mon regard, tu vois.
Parce que André Miller est arrivé et était parti de Cleveland en 2003.
Alors, t'as le droit de me faire des regards comme ça là.
Il m'a fait rigoler, il m'a tué. Carmelo et Miller aussi.
Bon, donc c'était pas la bonne réponse, je suis désolé pour toi. Donc est-ce que vous voulez prendre le temps de faire une question multipoint ? Ou pas, si je retrouve. Allez,
si tu retrouves
j'ai retrouvé ma bonne feuille, ouais, j'ai imprimé. Carmelo Anthony, 9e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. On va donc faire un point sur les meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Mais comme je suis un petit filou, et j'ai bien fait, parce que
tu
j'ai vu
passer
que...
à ceux qui sont derrière lui.
On va passer en dessous, oui, en dessous de Carmelo. Donc de la 10e à la 20e place, il y a 11 noms à donner. Et si alors vraiment vous êtes très bon, j'accepterai même le 21e. Hein. Pourquoi pas, ça fera 12 bonnes réponses et vous êtes 3, donc ça multiple de 3. Je vous donne juste une indication, il y a quand même beaucoup de joueurs très connus. Et pour vous aider, je vais vous rappeler les 9 premiers. Comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Ah, c'est bon pour vous ? Je vous les rappelle vite fait. LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal et Carmelo Anthony sont les 9 premiers. Il vous reste donc à me trouver chacun votre tour, l'un des meilleurs scoreurs jusqu'à la 20e place. C'est bon pour vous ?
Oui.
Et c'est donc Arnaud qui démarre.
Tim Duncan ?
Tim Duncan est 16e, c'est bon. Fred, il y a des joueurs très connus. Hein.
Iverson ?
Allen Iverson, il est loin, oh là là, je le vois même pas dans les 30. Donc c'est non.
Ben non.
Voilà, j'ai cherché son classement, mais il n'y est pas. J'ai imprimé que les 30 premiers. À toi, Steve.
Kevin Durant
est 13e. Hein, ouais, bravo.
Ne fais pas des émotions comme ça.
Arnaud, à toi.
James Harden.
James Harden. Oh là là, James Harden est 25e, c'est pas bon.
Oh, j'en avais d'autres.
Donc, Stephen, t'as gagné, mais tu peux me trouver d'autres noms. Si tu veux te la péter, vas-y.
Hakeem
Olajuwon, 12e, on y va, on enchaîne.
Moses Malone
est 10e, c'est excellent, après, oui.
Paul Pierce.
D'abord, on va donner quand même la parole à
Paul Pierce.
Steve. Paul Pierce, 17e, c'est excellent.
Dominique Wilkins,
c'est 15e.
John Havlicek.
Havlicek est 18e. Il t'en reste 4.
Le pote de Fred, Kevin Garnett.
Et exactement, le pote de Fred, Kevin Garnett.
Vince Carter,
l'autre pote de Fred.
Oh là là.
Il en manque 2, il faut remonter à plus loin là.
J'en ai un, je crois.
Il faut remonter à plus loin ?
Ouais.
C'est-à-dire ?
Bah, des époques plus anciennes.
80 ?
Peut-être avant. Même au-delà. Il y en a un, je suis pas sûr.
Oscar Robertson ?
Excellent, il t'en manque un. Ouais, bravo, là, c'est un carnage.
Stephen ?
Non, c'est pas Jerry West.
Ah, le Logan Boy au casse-pipe !
C'est pas Jerry West qui est 23ème, alors franchement, c'est le moins connu de la liste. Et alors, j'ai même du mal à te trouver des indices là.
George Mikan.
Mikan, j'aurais dit, moi.
Non, c'est pas ça. Je vous le donne.
Non, mais donne-moi un club, donne-moi un indice. Moi.
Un indice, les Bullets.
Ah, super. C'est pas le truc qui a apparu sur ton écran.
Ça te donne la ville et l'époque, du coup. C'est les années 70.
Elvin Hayes.
Excellent. Bravo, Stephen. Là, c'est un carnage. Là, tu mérites. Tu mérites après, d'être qualifié de coach.
Après, le problème, c'est que j'avais travaillé classement en haut pour le truc de Carmelo, donc j'avais vu les noms.
À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.